RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Brune Poirson.
Bonsoir à vous.
Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Vous êtes secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Donc le président Emmanuel Macron a publié aujourd'hui une tribune traduite dans 24 langues, dans 28 pays européens. C'est intitulé « Pour une renaissance européenne ». Il est question aussi du climat. Dans cette tribune, le président écrit qu'il faut prendre la tête du combat écologique. On va évidemment en parler. Et puis l'autre actualité qui vous concerne là encore, c'est la démarche conjointe de Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, votre ministre de tutelle démissionnaire, et le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui propose, demande 66 propositions visant à dessiner un nouveau pacte écologique. Mais avant d'évoquer ce programme, un mot sur la lettre du président aux Européens. On a le sentiment qu'en réalité, puisqu'il n'y a pas encore de tête de liste La République En Marche, que la tête de liste, pour l'instant, c'est Emmanuel Macron.
Non.
Non.
Là, le président de la République est tout à fait fidèle à l'esprit de son programme. C'est pas une nouveauté. Hein. Le président de la République a eu le courage de faire une campagne présidentielle sur l'Europe, sur le projet européen. Il a déjà fait un discours fondateur qui était le discours de la Sorbonne il y a un peu plus d'une année. Et là, eh bien, il fait le choix à l'heure où la situation est particulièrement grave en Europe. Je crois qu'on peut utiliser ce mot-là. Eh bien, s'adresser directement aux citoyens européens.
Est-ce que il dit dans le fond de choses, il dit faut sortir de deux pièges. Le premier, c'est celui du repli nationaliste qui a donné en quelque sorte le Brexit. Et puis le deuxième piège, c'est de dire il y a un statu quo, on ne fait rien, il faut réformer. Il faut réformer cette Europe. Et il s'agit pas de la vendre telle qu'elle est aujourd'hui.
Il s'agit de la transformer en profondeur. Parce que c'est ça.
Mais ça, beaucoup ont essayé, peu ont réussi.
Eh oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Et en plus, je crois que peu avaient le courage d'avoir le niveau d'ambition que le président de la République a sur l'Europe. Vous savez, il n'est pas naïf. Et sa tribune, d'ailleurs, avec ce qu'il propose, au contraire. Je crois qu'il a le courage de regarder les choses en face sans tabou et de dire, aujourd'hui, en Europe, on ne va pas assez loin dans plein de domaines. Il faut revoir les choses. Regardez, par exemple, quand on parle de politique commerciale, quand l'Europe a été fondée, quand les traités ont été signés, eh bien à l'époque, on n'avait pas une conscience des enjeux environnementaux comme il y a aujourd'hui. Oui. Et donc il a dit, il faut par exemple que l'Europe ne signe plus de traités de libre-échange avec des États qui ne respectent pas l'accord de Paris.
Mais c'est
pareil sur, on l'a vu déjà là avec la question de la fusion Alstom et Siemens, on voit qu'il faut que l'Europe maintenant puisse se doter des outils qui permettent que ça devienne une vraie puissance internationale, une vraie puissance globale.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites il est à peu près le seul. C'est vrai qu'en Europe, quand on regarde le paysage européen, on voit la Grande-Bretagne qui est empêtrée effectivement dans le Brexit, les Allemands et leur immobilisme, parce que la vie politique en Allemagne est compliquée, notamment avec l'extrême droite, l'Espagne qui est aussi dans l'immobilisme et qui attend des élections, et puis l'Italie, voilà, c'est un gouvernement national. Donc, en sorte, vous êtes en train de nous dire que le leader de l'Europe, le seul aujourd'hui qui incarne les valeurs démocratiques de l'Europe, c'est Emmanuel Macron.
Alors, je pense pas qu'on peut dire ça, parce que vous savez,
non, mais c'est un peu
quand même
comme
rester
ça
à sa place. L'Europe,
c'est un peu comme
non,
ça.
Non, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il se positionne. Moi, ce que je voulais dire déjà, c'était que c'était, en tout cas en France, quand on le voit dans les hommes politiques passés, c'est vraiment, je crois, celui qui a pris toute la mesure de l'importance de transformer l'Europe et qui risque sa peau, qui va fort,
qui ose.
Mais parce que c'est au cœur de son projet, il y croit. Il a des convictions, il a envie de les défendre. Mais non seulement il y croit, mais il veut tout simplement, lui, sa priorité au président Emmanuel Macron, c'est la France. Il veut que la France soit une grande nation, reste une grande puissance. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit faire en sorte que l'Europe, que la France soit forte dans une Europe forte. C'est indispensable. Vous savez, puisqu'on est sur France 24, je crois que je peux particulièrement l'évoquer ici. Moi, j'ai habité en Asie. On peut le regretter, mais quand on est en Asie, la France, vue depuis l'Asie, c'est une petite tache dans le monde. Moi, je le regrette, et c'est pas forcément ce que je pense. Mais souvent, ça m'est arrivé de dire, je suis française, bon, c'était bien.
C'est mieux de dire souvent, on est européen.
Les gens voyaient pas où c'était sur la carte. Mais quand on dit on est européen, en Asie, ailleurs dans le monde, eh bien, ça veut vraiment dire quelque chose. Il y a une signification, il y a une puissance derrière. Il y a une vraie souveraineté. C'est comme ça qu'on le veuille ou non. Mais l'Inde et la Chine sont des pays extrêmement peuplés. À eux seuls, c'est plus de 2/3 de la population mondiale.
Et il y a des désirs de déstabilisation de la part des grandes puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que l'Europe reste un bien commun et qu'il reste solide.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre relation avec les États-Unis a un peu évolué, et pas nécessairement de notre fait. Les États-Unis restent un allié essentiel et très important pour la France. Mais on voit que le président Trump l'a dit lui-même. Il compte pas s'engager au niveau européen autant que ses prédécesseurs. Et ça veut dire que il faut que l'Europe tienne sur ses deux pieds. Et pour ça, il faut la transformer. Parce qu'il faut l'adapter aux défis d'aujourd'hui. L'environnement, les migrations, les mutations du travail, les changements géopolitiques, vous venez d'en parler. Et ouais. Et c'est pour ça qu'il faut oser, qu'il faut prendre la mesure, qu'il faut s'y attaquer sans tabou. Et la France a des alliés en Europe. Vous savez, moi aujourd'hui, j'étais à Bruxelles. Je peux vous dire qu'on a beaucoup d'alliés et que il y a de quoi pouvoir transformer cette Europe-là. Mais il faut qu'on y aille.
Alors, vous m'avez pas répondu sur, sans doute, peut-être ne le savez-vous pas ou vous n'avez pas envie d'en parler. Qui sera cette tête de liste pour La République En Marche sur la liste nationale en France? On parle d'Agnès Buzyn.
Alors,
est-ce que vous pouvez confirmer?
Non, je peux pas confirmer, ni infirmer, ni commenter, parce que je suis pas présidente de la République, ni Premier ministre, ni en charge des élections européennes pour En Marche. Donc, je peux pas vous dire.
Alors, sur les enjeux donc écologiques, il écrit « L'Union européenne doit fixer son ambition zéro carbone en 2050 ». Alors, ça veut dire quoi? Qu'on arrête les voitures à essence 30 ans, en 30 ans, comment on passe au tout électrique? Quand on voit qu'on n'y arrive même pas, là, avec quelques voitures électriques, ça veut dire que... est-ce que c'est pas un regard un peu illusoire?
Ah non, pas du tout. Déjà,
à 30
vous
ans,
dit...
le zéro carbone.
Mais c'est
d'ici
ça l'objectif.
2050.
En tout cas, c'est l'objectif. C'est très important de fixer un objectif à long terme parce que ça envoie un signal aux entreprises. Ça envoie un signal à tous les acteurs économiques pour qu'ils se mettent en place pour eux aussi être en mesure d'atteindre cet objectif-là. Et par exemple, en France,
mais ce n'est
on a
qu'un
fixé...
objectif. Comment est-ce qu'il est c'est
alors,
possible de l'atteindre?
Alors, ça, c'est l'objectif. Ensuite, on le décline. Depuis cet objectif à 2050 jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple, on a négocié là récemment au niveau européen des mesures qui visent à limiter les émissions de CO2 des véhicules légers, des poids lourds, respectivement à 35 et 30% d'ici 2030. Donc on fixe un certain nombre d'étapes qui sont un peu comme, si vous voulez, un chemin que doivent suivre les industriels. Je dis pas que ça sera facile.
Ouais,
je dis simplement qu'il faut faire cette transition.
C'est surtout comment on passe au tout électrique et comment on, alors qu'on va réduire le nucléaire. Comment on fabrique l'électricité en
alors, ça,
c'est ça le sujet.
On va réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français, mais on va en parallèle aussi accroître celle des énergies renouvelables. Il y a des systèmes de stockage qui se développent et nous.
Vous pensez que les Français voudront des éoliennes sur.
Alors, il n'y a pas que les éoliennes déjà, c'est pas la seule solution. Mais moi, je pense et c'est une demande forte des Français que d'avoir plus d'énergies renouvelables. Premièrement et d'autre part, on le sait, il y a des études qui montrent que en travaillant sur la demande, c'est-à-dire en travaillant en maîtrisant mieux notre demande, c'est-à-dire en mettant en place des mesures d'efficacité énergétique, par exemple lutter contre les passoires thermiques des bâtiments et pour faire en sorte aussi que nous consommions mieux avec des outils qui nous permettent aujourd'hui, le digital nous permet ça, mieux maîtriser notre demande, eh bien ça permettra de pas avoir besoin de produire toujours plus d'électricité. C'est un équilibre. Il y a, je peux vous le dire, mes services ont travaillé là-dessus, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous avons les équilibres nécessaires.
Alors, il écrit aussi division par deux des pesticides en 2025. Là encore, on remplace par quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de baisse de rendement de l'agriculture?
Alors, je crois qu'il ne faut pas systématiquement penser à remplacer par quelque chose. Vous voyez, par exemple, sur le glyphosate, l'objectif n'est pas nécessairement de trouver tout de suite une autre molécule.
Oui.
Il est de changer en profondeur les pratiques agricoles. Parce qu'on sait que parfois...
Basculer sur le bio,
oui. Sortir de la monoculture, encourager surtout l'agroécologie, l'agriculture de conservation des sols, tout ça, c'est un panel de solutions. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais c'est fondamental, il faut enclencher ça. Parce que nous savons que ça a un vrai impact sur la biodiversité, sur les pollinisateurs, sur
alors c'est sur la vie. Il faut l'enclencher, mais pour inciter les agriculteurs à convertir leur exploitation en bio, l'État avait promis des aides, des subventions qui tardent à venir. Et d'ailleurs, la présidente de la FNSEA s'en émeut. Elle dit que ça fait il y a 2 ans de retard et ça met les agriculteurs en danger. Donc on voit bien qu'on n'est pas prêt.
Alors, là, c'est une mesure plutôt technique. Effectivement, il faut impérativement travailler à ça. Le ministre de l'Agriculture,
vous voyez qu'on a du retard, c'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs, mais...
Il en est pleinement conscient. Non, mais là, l'objectif aussi, c'est de transformer la politique agricole commune. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République au salon de l'agriculture.
Oui.
Il faut la transformer, c'est-à-dire qu'il faut la verdir. Il faut faire en sorte, par exemple, que les agriculteurs soient rémunérés pour des services environnementaux. C'est-à-dire si ils cultivent des haies, si bref, tout un panel de mesures qui peuvent mettre en, qui font en fait naturellement, qui rendent des services à l'environnement. Aux écosystèmes, eh bien, il faut qu'ils puissent être rémunérés pour ça. Parce qu'un agriculteur, c'est pas uniquement quelqu'un qui est là pour développer de façon massive, je sais pas, la production de lait ou de blé. Il a aussi un vrai rôle dans la préservation de la nature, dans nos paysages, mais dans aussi la variété de produits que nous pourrons consommer.
Alors, on va en dire à Nicolas Hulot, donc votre ancien ministre de tutelle, et Laurent Berger, donc le patron de la CFDT, avec 19 associations et ONG. Il présente 66 propositions. Dans une interview au Monde, Nicolas Hulot dit espérer que les politiques piocheront dans leur boîte à idées et qu'ils n'y voient pas un affront, mais une aubaine. Alors, ce soir, j'imagine que vous avez lu Le Monde, puisque cette interview est dans Le Monde. Est-ce que vous y voyez un affront ou vous y voyez une aubaine, puisque aujourd'hui la société civile, puisque il est retourné dans la société civile, Nicolas Hulot, est-ce que ces idées, vous le prenez comme une aubaine?
Moi, déjà, je pense d'abord, je crois que il faut les remercier cette contribution forte, importante, hein, au grand débat national. C'est pas anodin, hein, que ce soit la personne en charge du premier syndicat français et puis un ancien ministre de la transition écologique et solidaire qui fasse des propositions comme ça avec d'autres. Donc ça, je crois qu'on peut les remercier. Quand on regarde...
Qu'est-ce que vous prenez de leurs propositions?
Alors, vous savez, c'est pas moi qui vais décider, c'est beaucoup les Français. Leurs propositions, elles valent autant que les propositions de tous les Français, par définition.
Vous voulez dire qu'elles vont être intégrées dans le grand débat, par exemple?
Absolument, tout à fait.
D'accord.
Je crois que c'est vraiment important de reconnaître que ces propositions permettent d'avancer, permettent de discuter, mettre sur la table des choses importantes. Après, il faut regarder. Il y a des grands principes. C'est intéressant. Moi, je vois beaucoup de grands principes dans la transition écologique et solidaire. Des grandes mesures. Mais vous voyez, il faut regarder. Moi, souvent, et je pense qu'il faut s'attarder à la question du comment. Du comment. Ouais. C'est-à-dire, vous savez, souvent, dans la transition écologique, c'est quand on commence à se salir les mains. Pour prendre un exemple très concret, vous savez, Nicolas Hulot, il est arrivé au gouvernement en mai-juin 2017. Il aurait pu décider, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé de fermer les centrales à charbon en août ou en décembre? Non, il a reconnu qu'il fallait un peu de temps et que c'était plus compliqué que ça et qu'il s'agit de faire la transition. Eh bien... Là, je crois que pour chaque mesure, c'est le cas.
Et ce qu'il dit en fond, c'est qu'il faut réconcilier l'écologie et le social. Parce que dans le fond, on a toujours dit l'écologie, elle est punitive, et le social et l'écologie, ça va pas avec. Vous êtes d'accord avec cette idée?
Je n'ai jamais pensé que l'écologie était punitive.
Non, mais elle l'a souvent été. Mais là, qu'on peut marier le social et l'écologie.
Ah mais c'est indispensable. Non mais de toute façon, on n'avancera pas dans le domaine écologique et environnemental si on n'avance pas aussi en parallèle, si on ne prend pas en compte l'aspect social des choses. Moi je crois qu'en fait, transition écologique et transition sociale, c'est le même mot, c'est la même chose en fait.
Alors, dans ces propositions, il y a une idée, c'est de refaire une taxe carbone qui serait redistribuée aux ménages, alors il précise pas, on imagine peut-être aux plus défavorisés, et à la transition écologique et non à Bercy. Vous dites quoi de cette idée?
Moi, vous savez, c'est une idée que j'ai soutenue et que j'ai mis sur la table d'ailleurs il y a plusieurs semaines de ça. Je pense effectivement que l'intégralité des recettes de la taxe carbone doivent être réaffectées et doivent être allouées pour aider les familles, ouais, aider les petites et moyennes entreprises à faire cette transition écologique. Je pense que c'est indispensable, effectivement. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut s'intéresser à la vraie question aussi. Enfin, elle est importante, cette question de la taxe carbone, mais il y a la question du financement de la transition écologique. Oui. Parce qu'on est en sous-investissement chronique de 10 à 30 milliards d'euros par an, et ça s'accumule d'année en année.
Lui dit, il faut 55 milliards à 85 milliards pour financer la transition écologique, ce chiffre.
Alors, c'est pas lui qui le dit, c'est un think tank français, mais
oui,
effectivement,
enfin, dans son interview,
effectivement, c'est repris, mais c'est là-dessus que le gouvernement travaille.
D'accord.
Nous y travaillons. Vous savez, hier, par exemple, il y avait le One Planet Lab, ouais, qui s'est réuni autour du président Emmanuel Macron. Il y avait, par exemple, des économistes comme Nicolas Stern. Ce sont des gens qui travaillent sur ces questions-là depuis des années, qui ont les réponses. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on veut les rendre véritablement opérationnels.
Alors, Brune Poirson, le mouvement des Gilets jaunes avait démarré avec la taxe carbone. Le gouvernement a mis du temps avant de la supprimer. C'est le chiffon rouge, évidemment, à ne pas agiter. Pourtant, le président, la semaine dernière, a dit il a ouvert la porte au retour d'une taxe carbone flottante, c'est-à-dire en fonction de la montée des prix. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée dans le contexte actuel ?
Mais une chose est sûre, je crois que, premièrement, cette taxe carbone, elle peut pas être taboue. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est une des façons utiles, importantes, depuis des années et des années, de faire en sorte de taxer la pollution, donc de baisser la pollution, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. La question, plutôt, c'est l'argent que ça rapporte, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? Avec quel équilibre, avec d'autres mesures fiscales. C'est ça la vraie question.
Mais là, tout à l'heure, on parlait d'Europe. Pour qu'une taxe carbone soit efficace sur le climat, sur l'environnement, faudrait pas que les pays européens fixent cette taxe carbone pour les 28, par exemple ?
Alors, c'est là-dessus, ça fait partie des mesures que la France propose. Hein. On veut, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle un prix plancher dans le secteur de l'électricité, sur le carbone. On veut aussi mettre en place une taxe carbone aux frontières, de façon à ce que nos entreprises ne soient pas pénalisées si elles respectent, elles, des normes environnementales et de façon aussi à ce que des produits qui ont été fabriqués ailleurs dans le monde en émettant potentiellement beaucoup de CO2, eh bien, elles soient taxées pour ça, que la pollution qui a été émise lors de la fabrication soit taxée. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous nous battons au niveau européen. La difficulté, c'est qu'on est 28 ou 27 bientôt et que donc c'est difficile d'obtenir des consensus. Aujourd'hui encore, j'en discutais au niveau européen avec mes homologues. Par exemple, sur la question de la taxation du kérosène des avions. Moi, je pense qu'il faut que chaque secteur, et c'est pas que moi d'ailleurs, c'est une position que le gouvernement soutient, il faut que tous les secteurs de l'économie, c'est une question de cohérence, c'est une question de justice aussi, prennent leur part à la transition écologique et solidaire. Et ça passe aussi par une taxe.
Merci beaucoup, Brune Poirson, d'avoir été notre invitée. Merci à Agnès Le Cossec d'avoir préparé cette émission. Et merci aussi.